En cette fin novembre 1942, il existe maintenant trois Frances. D'abord, depuis le 10 juillet 1940, celle de Vichy, l'État français, sous l'autorité nominale du maréchal Pétain, mais en réalité de Pierre Laval et derrière lui des Allemands. Ensuite, la France de Londres, la France combattante, dirigée depuis l'été 1940 par le général de Gaulle. Et enfin, depuis la mi-novembre, la France d'Alger, avec à sa tête l'amiral Darlan. De ces trois Frances, celle qui paraît alors la mieux assurée est celle d'Alger. En effet, depuis le 13 novembre, comme je l'ai relaté à l'épisode 15, Darlan, en sa qualité autoproclamée de haut commissaire de France en Afrique, règne non seulement sur l'Afrique française du Nord, mais aussi sur l'Afrique occidentale française, qui s'est ralliée à lui le 23 novembre, soit un potentiel de 30 millions d'habitants. Il est à la tête d'une armée d'Afrique, aux effectifs bien plus importants que ceux de la France combattante. Près de 200 000 hommes, indigènes et européens. Une armée qui, depuis le 22 novembre, combat en Tunisie aux côtés des Alliés, sans compter les 100 000 hommes basés à Dakar. Et surtout, Darlan a le soutien des Américains et des Britanniques. Même si Churchill, dans une lettre adressée le 17 novembre à Roosevelt, précise, je cite, « qu'il ne peut s'agir que d'un expédient provisoire que seul justifie les nécessités du combat ». Sur le fondement de l'acte constitutionnel numéro 4 Quater, qui le désignait comme le successeur du maréchal Pétain, Darlan agit officiellement, je cite, « au nom du maréchal empêché ». D'ailleurs, l'article 3 de l'accord Darlan-Clark signé entre Darlan et les Américains le 22 novembre stipule clairement, je cite, « que le personnel gouvernemental français continuera à exercer ses fonctions avec loyalisme ». En d'autres termes, les hommes, les institutions et les lois de l'État français sont maintenus. Subsistent donc les lois sur l'exclusion des Juifs, la répression des sociétés secrètes, la dissolution des partis politiques, et même les camps d'internement, où sont notamment détenus des opposants politiques, dont, au bagne de Maison Carrée, 27 députés et sénateurs communistes, parmi lesquels Ambroise Croizat, Étienne Fajon, Waldeck Rocher et Prosper Mocquet, le père du jeune Guy Mocquet, exécuté par les Allemands en octobre 1941. Mais Darlan est assis sur un trône menacé de toutes parts. Il ne l'ignore d'ailleurs pas, et son épouse a plusieurs fois déclaré « ils vont finir par le tuer ». Pour les gaullistes, il est un traître. Et dans un discours radiodiffusé le 7 décembre 1942 sur Radio Levant et Radio Brazzaville, De Gaulle prononce une forte diatribe contre Darlan, sans jamais le nommer. Je cite. « La nation n'admet pas qu'un quarteron d'homme qui symbolise la capitulation, la collaboration, l'usurpation, et qui, ayant usé et abusé contre les libérateurs de la discipline des autres, en use et en abuse maintenant pour singer l'honneur et le devoir. La nation n'admet pas que ces hommes, ayant failli dans la guerre étrangère et se sentant condamnés, puissent ménager leur destinée en créant des conditions d'où sortira la guerre civile. La nation n'admet pas leur pouvoir, supposé de droit divin, mais tiré d'une parodie. Hitler voulait, a-t-il dit, pourrir notre guerre. La nation ne veut pas, elle, qu'on pourrisse notre libération. » La résistance intérieure est également virulente. Henri Freinet parle d'injures au peuple français. Et les mouvements combat, franc-tireur et libération sud envoient une motion à Londres demandant instamment que les destins nouveaux de l'Afrique française du Nord libérée soient remis au plus tôt au général de Gaulle. Darlan est également considéré comme un traître par Vichy. Pétain le désavoue publiquement le 15 novembre. Et dans un message aux Français le 16, il déclare « l'amiral Darlan s'est placé en dehors de la communauté nationale, je le déclare déchu de toute fonction publique et de tout commandement militaire. Le 17 novembre, l'acte constitutionnel numéro 4 quater, qui faisait de Darlan le successeur du maréchal Pétain, est abrogé et remplacé par l'acte constitutionnel numéro 4 quinquies, par lequel le chef de gouvernement Pierre Laval devient son successeur. Enfin, le 27 novembre, Darlan est officiellement déchu de la nationalité française. En outre, les opinions publiques britanniques et américaines admettent mal l'alliance avec Darlan. En Grande-Bretagne, la presse soutient De Gaulle. Et le 26 novembre, une motion déposée à la Chambre des communes condamne le retour au Quisling, du nom du collaborateur norvégien devenu synonyme de traître. Aux États-Unis, plusieurs hommes politiques, dont le maire républicain de New York, Fiorello LaGuardia, et d'influents éditorialistes comme Walter Lippmann et Dorothy Thompson, critiquent cette politique. Et les correspondants de presse américains à Alger n'hésitent pas à présenter Darlan comme un obstacle à tout regroupement français. Il n'est pas jusqu'au monarchiste, comme Henri d'Astier de la Vigerie, le frère de l'adjoint général de Gaulle François d'Astier de la Vigerie et du résistant Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui veulent, pour reprendre leurs termes, lever l'hypothèque d'Arlan et faire appel au comte de Paris, Henri d'Orléans, pour réconcilier gaullistes et girondistes. Henri d'Astier et son ami, le lieutenant-abbé Louis Cordier, persuadent ainsi un volontaire de l'éphémère corps franc d'Afrique, le jeune Fernand Bonnier de la Chapelle, âgé d'à peine 20 ans, que l'amiral d'Arlan est le seul obstacle à un rétablissement de la monarchie et que son exécution est nécessaire. C'est ainsi que le 24 décembre 1942, vers 15h, François Darlan est abattu de deux coups de revolver par Fernand Bonnier alors qu'il retournait à son bureau au Palais d'été, siège du Haut-Commissariat. Immédiatement arrêté et interrogé par le chef de la Sûreté, le commissaire Nicolas Garidacci, il assume son acte et ne dissimule pas les noms de ses deux commanditaires, citant également celui du comte de Paris. Mais, pour le président du tribunal militaire qui le juge dès le 25 décembre au soir après une instruction expéditive, je cite, « L'assassin a reconnu son crime, avoué qu'il l'a prémédité et qu'il est le seul responsable. » Bonnier est condamné à mort après un procès qui aura duré moins de 2 heures. Plaidoirie comprise. Et il est exécuté le lendemain matin. Les Américains sont furieux et exigent que l'ordre règne en Algérie, brandissant la menace de l'instauration d'un régime militaire d'occupation. Il faut trouver sans tarder un successeur à Darlan. Et sous la pression américaine, c'est le général Giraud qui, le 26 décembre, est élu haut-commissaire par le Conseil impérial créé par Darlan le 1er décembre. Giraud prendra par la suite le titre de commandant en chef civil et militaire. La décision est alors prise de rouvrir l'enquête. Et le 29 décembre, une quinzaine de personnes suspectées d'avoir trempé dans cet assassinat sont arrêtées, dont l'abbé Cordier et Henri d'Astier. Enfin, le 9 janvier 1943, un juge d'instruction militaire, le commandant Albert-Jean Voiturier, est désigné. Homme intègre, le juge mène son instruction avec diligence et conclut rapidement à un complot monarchiste, ce qui l'amène à inculper de complicité d'assassinat Cordier et Henri d'Astier dès le 10 janvier. Mais lorsqu'il envisage, le 16 janvier, d'inculper 2 autres monarchistes, l'influent banquier Alfred Pose, de fait ministre des Finances en Afrique du Nord, et son chef de cabinet Marc Jacquet, et surtout lorsqu'il envisage d'interroger le comte de Paris, le juge se heurte au refus formel de Giraud et de son adjoint, le général Jean Bergeret. Le juge demande alors le lendemain à être dessaisi du dossier et l'instruction n'ira pas plus loin. Un non-lieu étant finalement prononcé, et Henri d'Astier et Cordier étant par la suite libérés. Plus tard, le 21 décembre 1945, Bonnier sera réhabilité par un arrêt de la Chambre des révisions de la Cour d'appel d'Alger, qui jugera qu'il avait agi dans l'intérêt de la libération de la France. On sait donc qui a tiré sur l'amiral Darlan. Mais à qui profite ce crime ? Depuis près de 80 ans, les livres, les articles et les émissions se sont succédés pour chacun proposer leur hypothèse sans que la vérité sur l'assassinat de l'amiral Darlan ne soit jamais formellement établie. S'agirait-il d'un simple complot monarchiste ? Le comte de Paris, exilé en Espagne, est certes arrivé clandestinement à Alger le 10 décembre et a multiplié les contacts avec les notables locaux. Mais il n'a jamais été question pour les Américains et les Britanniques de cautionner une restauration monarchiste en France. Un complot gaulliste. Il se trouve que Fernand d'Astier de la Vigerie est arrivé à Alger le 19 décembre en mission officielle d'information pour De Gaulle, et il a pu rencontrer son frère Henri. Mais là encore, les Américains s'opposent toujours à la venue à Alger du chef de la France combattante, et c'est le général Giraud qu'ils ont imposé pour succéder à Darlan. Un complot britannique. Fernand d'Assis de la Vigerie était porteur d'une somme de 40 000 $ fournie par les Britanniques, dont 2 000 $ seront retrouvés en possession de Bonnier. Et il est vrai que le maintien au pouvoir de Darlan, dont l'anglophobie était notoire, devenait gênant pour la diplomatie britannique. Mais on n'a jamais formellement prouvé une implication de l'Intelligence Service et du Special Operation Executive. Il est à craindre qu'on ne sache jamais qui a réellement armé le bras de Fernand Bonnier de la Chapelle. Dans un premier temps, rien ne change en Algérie avec le remplacement de Darlan par le général Giraud avec l'appui des Alliés. Car Giraud est avant tout un militaire, dont le seul but affirmé est de remporter la victoire sur les Allemands. Sur le plan politique, il affirme toujours, comme Darlan avant lui, agir au nom du maréchal empêché. Et de fait, les institutions et les lois de Vichy continuent à subsister. Il n'est même pas rare de voir sur des carrefours d'Alger de grands portraits du maréchal Pétain. Toutefois, Roosevelt et Churchill ne peuvent pas continuer à ignorer le chef de la France combattante qui bénéficie du soutien affirmé de la résistance intérieure et jouit d'une réelle popularité auprès des opinions publiques britanniques et américaines qui n'admettent pas la persistance du régime de Vichy en Afrique du Nord. Il leur apparaît donc nécessaire d'obtenir l'unification de ces deux Frances, celle de Londres et celle d'Alger. Et la conférence interalliée de Casablanca, qui doit se tenir du 14 au 24 janvier 1943, leur en donnera l'occasion. Cette conférence, qui réunit Roosevelt et Churchill, Staline ayant décliné l'invitation, a pour but d'exiger la reddition sans condition des puissances de l'Axe, de poursuivre l'aide alliée à l'Union soviétique et de préparer l'invasion de la Sicile et de toute l'Italie. Cette conférence doit également montrer aux yeux de l'opinion publique alliée la réconciliation entre les deux frères ennemis, De Gaulle et Giraud. D'où la comédie devant les caméras de la poignée de main échangée entre les deux généraux. Poignée de main qu'il a fallu répéter pour les photographes, tant elle avait été brève. Les deux dirigeants anglo-saxons auraient souhaité une union consistant en une subordination du général de Gaulle à Giraud, lequel, en sa qualité de général d'armée, était d'un grade plus élevé. Mais il n'en était évidemment pas question pour de Gaulle. Et c'est une direction conjointe de l'ensemble des forces françaises par les deux hommes qui est envisagée. Mais le maintien de la législation de Vichy par Giraud constitue un obstacle infranchissable à un rapprochement des deux généraux. Aussi, Giraud est-il incité par Roosevelt et Churchill à changer l'orientation de son régime? C'est ainsi qu'en mars 1943, ses collaborateurs les plus pétainistes sont poussés à la démission. Et que le 14 mars, Giraud prononce devant l'Association des Alsaciens-Lorrains un discours de rupture avec Vichy, en déclarant notamment que la législation postérieure à l'armistice n'a pas de valeur légale. Dès le 18 mars, le régime républicain est donc rétabli en Afrique du Nord. Les lois discriminatoires supprimées. À l'exception notable de l'abolition du décret Crémieux sur la citoyenneté des Juifs d'Algérie, qui est au contraire expressément confirmé. L'obstacle d'une rencontre entre le commandement civil et militaire d'Alger et le Comité national français de Londres est donc levé. Et sur l'invitation de Giraud, De Gaulle arrive enfin à Alger le 30 mai 1943. Un pouvoir français unifié voit le jour le 3 juin 1943 par la constitution du Comité français de la libération nationale, CFLN, avec à sa tête les deux généraux en qualité de co-présidents. Mais dès le début, la composition de ce comité n'est pas équilibrée, puisqu'il comprend 6 commissaires gaullistes contre 5 commissaires giraudistes. Par ailleurs, au même moment, le Conseil national de la résistance, qui s'est réuni pour la première fois à Paris le 27 mai 1943, adopte à l'unanimité de ses 17 représentants une motion légitimant De Gaulle comme le seul chef politique de la résistance intérieure, par ces mots: « La France entend que le gouvernement, c'est le devoir du Conseil de l'affirmer avec netteté, soit confié au général De Gaulle, qui fut l'âme de la résistance aux heures les plus sombres et qui n'a cessé depuis le 18 juin 1940 de préparer en pleine lucidité et en pleine indépendance la renaissance de la patrie détruite comme des libertés républicaines déchirées. » Les premières semaines de ce comité à deux têtes sont houleuses, car Giraud entend cumuler la coprésidence du pouvoir exécutif avec le commandement en chef des forces armées, ce que De Gaulle ne peut admettre, mettant sa démission dans la balance. Mais Giraud va commettre l'erreur de s'absenter d'Alger pendant tout le mois de juillet 1943 pour effectuer un voyage officiel aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne afin d'obtenir des armes pour son armée d'Afrique, laissant ainsi De Gaulle présider seul les cérémonies du 14 juillet et apparaître comme l'unique chef du gouvernement. À son retour à Alger le 31 juillet, Giraud ne peut que constater sa marginalisation. Plusieurs de ses partisans, comme les commissaires René Maillère et Maurice Couve de Murville, ont rejoint les rangs gaullistes. D'autres sont progressivement écartés et poussés à la démission. Et c'est fort du soutien du CFLN que De Gaulle obtient de diriger seul les affaires civiles et de politique générale, tandis que l'autorité politique de Giraud n'est plus que symbolique. Sur le plan militaire, le 1er août, l'armée d'Afrique et les forces françaises libres fusionnent au sein d'une armée française de la libération, dont le commandant en chef est certes le général Giraud, mais celui-ci se trouve désormais placé sous l'autorité d'une nouvelle instance, le Comité de défense nationale, avec à sa tête le général de Gaulle. La libération de la Corse sera le prétexte de la mise à l'écart de Giraud. Depuis le 8 novembre 1942, l'île est occupée essentiellement par les Italiens, mais aussi sur la côte orientale par les Allemands, tandis que s'organise une résistance intérieure avec laquelle Giraud est en contact en l'approvisionnant en armes transportées par le sous-marin Casabianca et en envoyant le 4 avril 1943 le capitaine de gendarmerie Paulin Colonna d'Istria sur l'île avec pour mission d'assurer la coordination et le commandement militaire des mouvements de résistance corse en vue d'un débarquement. Mais la chute de Mussolini le 25 juillet 1943 et la signature de l'armistice le 8 septembre entre l'Italie et les Alliés incite la résistance corse à se soulever avec le soutien des Italiens. Toutefois, la réaction allemande est vigoureuse et Colonna d'Istria doit solliciter l'aide d'Alger le 9 septembre. C'est Giraud qui reçoit à 20h la SOS de Colonna d'Istria. En sa qualité de coprésident du CFLN, mais aussi de commandant en chef, il décide, sous sa seule responsabilité, d'envoyer le 11 septembre sur l'île une compagnie de 109 hommes du bataillon de choc du commandant Fernand Gambier, et ceux-ci débarquent à Ajaccio le 13, suivis par des renforts en hommes et en matériel transportés par la 10e division de croiseurs légers. Sous la pression française et italienne, les Allemands commencent à évacuer l'île à partir de la fin du mois de septembre. Et la libération de toute la Corse est effective avec la prise de Bastia au matin du 4 octobre. Le 8 octobre, de Gaulle arrive à Ajaccio pour célébrer, je cite, « la fortune et l'honneur de la Corse d'être le premier morceau libéré de la France ». Mais il n'a été prévenu de cette opération qu'au moment de son déclenchement. Et il le reproche d'autant plus à Giraud que celui-ci a laissé le monopole de la victoire aux communistes du Front National, lesquels occupent la préfecture et administrent maintenant 260 municipalités sur 320. Cette bévue de Giraud va transformer sa victoire militaire en une défaite politique, car de Gaulle exige l'abandon d'une diarchie à la tête du CFLN. Giraud accepte un compromis le 3 octobre. Désormais, il se contentera de contresigner les actes pris par de Gaulle. Mais le 9 novembre 1943, sous le prétexte de procéder à un remaniement du CFLN, de Gaulle demande la démission de tous les commissaires présents afin de composer une nouvelle équipe gouvernementale sous sa seule présidence. Équipe dont ne feront finalement partie ni le général Giraud, ni ses deux derniers fidèles au CFLN, le général Alphonse-Joseph Georges et le docteur Jean Abadie. Giraud est ainsi définitivement exclu de la direction du CFLN et cantonné dans les seules attributions de commandant en chef. Fonction qui sera finalement supprimée le 8 avril 1944. Placé en réserve de commandement, Giraud se retire alors dans une villa mise à sa disposition à Mazagran, près de Mostaganem en Algérie. Désormais, le général de Gaulle est l'unique chef de la France combattante. Et dès les premières semaines de 1943, le CFLN est officiellement reconnu par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et de nombreux autres pays alliés comme les États du Commonwealth, Cuba, le Mexique, la Norvège, le Chili, mais aussi la Grèce, la Pologne, la Belgique, lui offrant une représentation internationale bien supérieure à celle du gouvernement de Vichy. Il ne reste plus au CFLN que de devenir un véritable gouvernement français. Ce sera chose faite le 3 juin 1944, lorsqu'il prend le nom de gouvernement provisoire de la République française, GPRF. Pendant ce temps, l'autre France, celle de l'État français, poursuit sa descente aux enfers. Depuis la fin 1942, avec l'occupation de toute la métropole, le régime de Vichy n'a plus d'autonomie territoriale. Il n'a plus d'armée, ni de marine, ni d'empire, à l'exception d'une Indochine contrôlée militairement par les Japonais. Il n'a plus qu'une représentation internationale limitée aux États satellites de l'Axe et à deux pays neutres, la Suisse et le Vatican. Le vieux maréchal a abdiqué ses prérogatives gouvernementales entre les mains de Laval, qui gouverne seul, ou plutôt qui se donne l'illusion de gouverner, car désormais, ce sont les Allemands qui mènent le jeu. Ceux-ci réclament davantage de main-d'œuvre pour remplacer dans leurs usines les ouvriers versés en masse dans l'armée pour combler les pertes humaines de plus en plus élevées. Comme je l'ai relaté à l'épisode 14, Laval a bien tenté de gagner du temps en proposant en juin 1942 la relève consistant à libérer un prisonnier de guerre pour 3 départs volontaires de travailleurs en Allemagne. Mais devant le peu de résultats de cette formule, Fritz Sauckel, surnommé le négrier de l'Europe, veut recourir au recrutement forcé, incitant Laval à prendre les devants, en promulguant d'abord le 4 septembre 1942 une loi relative à l'utilisation et à l'orientation de la main-d'œuvre, et, toujours sur l'insistance des Allemands, la loi du 16 février 1943 portant institution du service du travail obligatoire, STO. Ce sont 650 000 Français qui seront ainsi envoyés de force travailler en Allemagne. Le STO est bien sûr extrêmement impopulaire et sera à l'origine des maquis qui se développent à partir de 1943 et dont j'ai parlé à l'épisode 19. L'institution du STO marque ainsi une rupture totale entre le régime et la population dans un pays qui bascule de plus en plus dans la terreur et la violence. Les Allemands exigent pour leur part que soit assurée la sécurité de leurs troupes en France occupée. Or, ils ne peuvent, avec la 60aine de bataillons de territoriaux de défense à leur disposition, assurer seuls le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire. Et Laval pense pouvoir monnayer ce souci de sécurité. Il dispose bien sûr des forces de l'ordre classiques, policiers, gendarmes, gardes mobiles et gardes mobiles de réserve. Mais le vent tourne. La défaite à terme de l'Allemagne semble maintenant quasi certaine et Laval sent qu'il ne peut plus réellement compter sur ses forces pour la défense des intérêts allemands. La solution serait alors de créer une police supplétive plus politisée. Or, il existe depuis février 1942 un service d'ordre légionnaire mis sur pied par Joseph Darnan à partir de la Légion française des combattants. C'est sur cette base qui est ainsi créée par la loi du 30 janvier 1943 la milice française groupant, je cite, « les Français résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France ». Cette police supplétive a pour président nominal Laval, mais son véritable chef est son secrétaire général Darnan, qui en assume la direction opérationnelle, avec une branche paramilitaire chargée du maintien de l'ordre, la Frangarde. D'abord cantonnée dans l'ex-zone sud, la milice obtiendra des Allemands fin 1943 son extension en zone nord. En août 1943, Darnan endosse l'uniforme allemand en qualité d'Obersturmführer, c'est-à-dire lieutenant, au sein de la Waffen-SS, après avoir prêté serment de fidélité à Hitler. Ce qui amène les Allemands, jusque-là réticents, à consentir à armer les miliciens qui dès lors participeront à des expéditions punitives contre les résistants et les maquisards. C'est désormais la loi du talion qui s'applique dans une France qui s'enfonce dans la guerre civile. Tout sympathisant réel ou supposé des alliés et des résistants s'expose à être arrêté, torturé, abattu, comme le sénateur radical socialiste et directeur de la Dépêche de Toulouse, Maurice Sarrault, le 3 décembre 1943. Ou l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, l'octogénaire Victor Bache, assassiné avec son épouse le 10 janvier 1944. Et comme les juges professionnels, même au sein des sections spéciales des cours d'appel, rechignent de plus en plus à condamner à mort les résistants qu'ils ont à juger, la loi du 20 janvier 1944 institue des cours martiales mise en place par le secrétaire général au maintien de l'ordre, qui n'est autre depuis le 1er janvier que Joseph Darnan lui-même. Ces cours martiales, composées de miliciens anonymes et ne prononçant que des peines de mort immédiatement exécutoires, ne sont qu'une parodie de justice, ensanglantant encore un peu plus le pays. D'autres Français choisiront de combattre sur le front de l'Est, sous l'uniforme allemand, au sein de la Légion des volontaires français, ou dans d'autres organisations allemandes, comme la division SS Charlemagne, la Kriegsmarine, le NSKK, l'organisation paramilitaire du parti nazi, ou l'organisation Todt. Ils seront entre 15 000 et 20 000 à avoir ainsi servi sous l'uniforme allemand entre 1941 et 1945. Pendant ce temps, le maréchal Pétain, qui depuis l'occupation de sa zone sud n'est plus intervenu dans les affaires gouvernementales, ne se préoccupe pas moins, en cette fin d'année 1943, de sa survie politique. Son acte constitutionnel numéro 12 du 17 novembre 1942, permettant au chef du gouvernement, soit Pierre Laval, de promulguer seul les lois et décrets, réserve en effet expressément à Pétain la légitimité constitutionnelle qu'il tient de la loi du 10 juillet 1940. Or, cette nouvelle constitution est prête, et ce projet propose un régime républicain de type présidentiel, avec un retour au suffrage universel, y compris pour les femmes. Pétain peut ainsi considérer qu'il a rempli la mission qui lui avait été confiée par l'Assemblée nationale, à laquelle il souhaite donc remettre son mandat. Et prévoyant le cas où il décéderait avant d'avoir pu promulguer sa nouvelle constitution, il signe, le 12 novembre 1943, un acte constitutionnel numéro 4 sexties, par lequel, dans cette hypothèse, ses pouvoirs seraient remis à l'Assemblée nationale et non plus à Pierre Laval. Pétain compte en informer les Français dans un message radiodiffusé prévu pour le 13 novembre 1943. Évidemment, Laval s'inquiète de ce plan et surtout de la réaction des Allemands, qui pourraient craindre un renouvellement du scénario italien avec un renversement des alliances. Prudent, il préfère s'en tenir à l'écart. C'est ainsi que le 13 novembre, à 19h30, la radio nationale annonce: État français, radiodiffusion nationale, vous allez entendre le maréchal Pétain, chef de l'État. Les auditeurs tendent l'oreille, car cela fait longtemps qu'ils n'ont plus entendu le vieux maréchal, et ils pressentent qu'il doit se passer quelque chose. Mais seul le silence suit cette annonce. Puis de la musique, et le speaker reprend la parole. Vous entendez maintenant des extraits de l'opérette d'Henri Christinet, Dédé. Et après 10 minutes de musique de cette opérette, le speaker revient annoncer: le maréchal ne parlera pas ce soir. Les Français s'interrogent sur cet incident, dont ils n'apprendront rien. Ils ignorent que les Allemands, prévenus des intentions de Pétain, sont intervenus par l'intermédiaire de leur consul général à Vichy pour lui interdire l'accès à la radio et la promulgation de ce nouvel acte constitutionnel. Vexé, Pétain se met en grève du pouvoir. Mais le 4 décembre, Otto Abetz vient à Vichy lui remettre une lettre d'Hitler. Une lettre qui n'est qu'un long réquisitoire méprisant et insultant, critiquant toute l'attitude de Pétain depuis 3 ans, et lui intimant l'ordre de reprendre ses fonctions sous l'habituelle menace du recours à un Gauleiter. Le projet de Pétain n'aura ainsi été qu'un pétard mouillé. Dès le lendemain, il se plie une fois de plus aux injonctions des Allemands, qui désormais lui imposent de faire entrer au gouvernement les collaborateurs les plus engagés, comme Philippe Henriot au secrétariat d'État à l'information et à la propagande le 6 janvier 1944, et Marcel Déat au travail le 16 mars, tandis que Joseph Darnan devient le 14 juin secrétaire d'État à l'intérieur. La vie pour les Français au début de l'année 1944 est de plus en plus difficile, avec les restrictions, le rationnement les bombardements alliés qui font malheureusement trop de victimes civiles. Certains tirent profit de la situation, profiteurs du marché noir, trafiquants, délateurs, auxiliaires français de la Gestapo, tels l'ex-policier Henri Lafont et le gangster Pierre Bonny, qui commettent leurs crimes dans l'immeuble tristement célèbre du 93 rue Lauriston à Paris. Mais tous attendent, les uns avec espoir, les autres avec crainte, l'arrivée de ce débarquement allié sur les côtes de France. Un débarquement si souvent annoncé, mais qui, au printemps 1944, va devenir réalité. Il n'y aura bientôt plus qu'une seule France, celle de la libération.